Vous écoutez RFI Radio France Internationale, il est 6h30 à Paris, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
L'actualité africaine avec Arthur Ponchelet. Bonjour Arthur.
Bonjour Arnaud et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une ce matin, quand la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'exporte hors d'Europe, à l'occasion des 3 ans de ce conflit, on se penche sur un autre terrain de guerre, le Soudan, où Kiev et Moscou ont soutenu des camps opposés. Félix Tshisekedi persiste et signe, il n'y aura pas de dialogue direct avec le M23. Le président congolais a réuni la majorité ce week-end pour rappeler sa position. De son côté, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, est sorti du silence. Une première depuis 2019. Il estime que l'option militaire n'est pas une solution et critique vivement son successeur. Au sommaire également, le Gabon, raccordé au réseau électrique de la Guinée équatoriale. Nouvelle stratégie pour mettre fin au délestage. Et puis, levée de bouclier de la diaspora togolaise contre la nomination d'un nouvel ambassadeur en France. Vous l'entendrez, c'est une personnalité controversée. Le bruit des bombes qui percent le ciel et celui des bottes qui franchissent la frontière. Le 24 février 2022 à l'aube, la Russie lançait sa guerre contre l'Ukraine. 3 ans, des dizaines de milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés plus tard. L'opération militaire spéciale s'est transformée en guerre totale et le conflit s'exporte même hors d'Europe. C'est le cas au Soudan, où Wely Diallo, où Kiev et Moscou se sont un temps affrontés.
Dans les premiers temps du conflit, l'Ukraine et la Russie ont chacun soutenu leur général. L'Ukraine s'est rapprochée du général Al-Burhan. Des troupes ont été déployées dans Khartoum dans un premier temps, puis ce partenariat s'est principalement axé sur des échanges commerciaux qui ont fini par s'estomper. Côté russe, les mercenaires des Wagner ont commencé par intervenir auprès des forces de soutien rapide du général Emetti. Puis, à la mort de Prigogine, Moscou a repris la main sur Wagner et décidé de changer de camp. La Russie soutient désormais le général Al-Burhan. Objectif, réactiver les accords de 2007 afin d'obtenir une base militaire russe en mer Rouge pour compenser la perte d'influence et de capacité logistique en Syrie. Pour l'obtenir, la Russie a donc choisi de proposer armes et soutien au général Al-Burhan.
Wely Diallo, les 3 ans de la guerre en Ukraine, on y consacre une matinée spéciale ce matin. RFI est en direct de Kiev dans une demi-heure. Édition spéciale présentée par Andréane Mellard. Sur le front de la guerre au Soudan, le camp du général Al-Burhan laisse éclater sa colère. Colère après une charte signée ce week-end à Nairobi, à l'initiative du général Emetti, 24 organisations de la société civile, villes, partis politiques et groupes armés ont signé un document. Il jette les bases d'un gouvernement parallèle à celui de Port-Soudan. Gaël Alex, aujourd'hui le Kenya est très critiqué pour avoir permis la création d'un gouvernement sécessionniste sur son sol.
Dès hier, le gouvernement de Port-Soudan a décidé d'arrêter d'importer du thé kényan, selon un communiqué du ministère de l'Information. Le Soudan en est un des premiers consommateurs. Après le déclenchement de la guerre en 2023, les exportations kényanes avaient chuté de plus de 70%, selon le bureau du thé du Kenya. Les retombées seront aussi diplomatiques. Ce week-end, William Ruto s'est entretenu avec Marco Rubio. Sur X, le président kényan assure avoir expliqué au secrétaire d'État américain que Nairobi offre simplement une plateforme aux acteurs clés soudanais afin de lancer un processus de paix. Sur le même réseau social, le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain s'indigne que le Kenya, un allié des États-Unis, aide les forces de soutien rapide à légitimer leur règne génocidaire. Le général Emetti est en effet sous sanction américaine depuis janvier. Dans un communiqué publié ce week-end, la Commission kényane des droits de l'homme accuse également William Ruto de saboter tous les efforts panafricanistes. Elle rappelle que lors du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, le Conseil de paix et sécurité a condamné toute ingérence extérieure dans le conflit soudanais. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Et c'est dans ce contexte que l'armée soudanaise a dit hier avoir brisé le siège autour de la ville d'El Obeid, c'est dans le sud du pays. Le ministre soudanais des Finances parle de victoire stratégique. À l'écoute de RFI. Il est 5h34 en temps universel. Relatif retour au calme ce week-end dans l'est de la RDC. Pas de combat signalé au nord dans le Loubero ni au sud dans le sud Kivu. Week-end très politique en revanche, avec d'abord une réunion de la majorité présidentielle autour de Félix Tshisekedi samedi. Coralie Pierret, le chef de l'État, a réitéré sa position, à savoir pas de dialogue direct avec le groupe armé M23 qu'il a qualifié de pantin du Rwanda.
En réaffirmant son refus de dialoguer directement avec le M23, le président Félix Tshisekedi est resté campé sur ses positions. Je veux un dialogue, mais je veux un dialogue avec leur maître, a-t-il affirmé devant sa majorité présidentielle samedi, en faisant référence au président rwandais Paul Kagame, qu'il accuse d'être derrière le M23. Le président congolais ne veut pas céder à la pression alors que le rapport de force lui est défavorable sur le terrain militaire, analyse Trésor Kibangula, directeur du pilier politique de Ebouteli, un institut de recherche congolais. Plusieurs appels au dialogue, dont celui des églises catholiques et protestantes, ont été lancés ces derniers jours. En réalité, Kinshasa n'écarte pas la discussion avec le M23, mais souhaite que cela se passe dans le cadre du processus de Nairobi, poursuit le chercheur. En attendant, Félix Tshisekedi continue de défendre l'option militaire et de chercher de nouveaux partenaires. Il a promis une refonte totale de l'armée congolaise et a reconnu, dit-il, des trahisons qui expliquent en partie les résultats sur le terrain. Coralie Pierret, Kinshasa, RFI.
Et si Félix Tshisekedi défend donc l'option militaire, une autre voix est sortie du silence ce week-end, estimant que ce n'est pas la solution. Joseph Kabila s'est exprimé dans une tribune publiée dans un journal sud-africain, le Sunday Times, une première depuis qu'il a quitté le pouvoir en 2019. L'ancien chef de l'État accuse son successeur d'avoir instauré un régime qu'il qualifie de tyrannique. Il estime également que la RDC est au bord de l'implosion. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo inquiète aussi la diaspora avec cette question: comment attirer l'attention de la communauté internationale? Un groupe de rappeurs a sorti vendredi un clip commun, Free Congo. C'est signé Youssoupha, Damso ou encore Kalash Criminel. En deux jours, il compte près d'1,5 million de vues sur YouTube. Eva Massi.
Des millions de morts, vous, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes remparts.
Bien plus qu'une musique, un vrai cri du cœur. Dans Free Congo, 6 artistes dénoncent un génocide en cours dans le pays de leurs parents. Le rappeur Gradure a réuni Youssoupha, Damso, Nino, Josman et Kalash Criminel, tous d'origine congolaise. Ils posent chacun leur tour des paroles percutantes sur la souffrance des habitants de l'Est de la République démocratique du Congo. Les paroles chantées en français sont sous-titrées en anglais, comme pour s'assurer de porter le message encore plus loin. En dessous du clip, on lit une indication « S'informer, c'est agir » et les fans, et pas que, y retrouvent des suggestions de documentaires à voir sur le sujet. Et c'est ainsi que Goma, Bukavu et toute la RDC sont désormais sur la scène du rap tricolore. Avec Free Congo, Gradure et ses compagnons nous rappellent que la musique et la notoriété peuvent servir à soutenir une cause, celle d'un Congo libre et prospère.
On pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé d'un monde meilleur, sans caca, mais sans M23.
Eva Massi est toujours sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Notez que les chefs d'état-major de l'EAC ont conclu leur discussion vendredi à Nairobi. Leurs conclusions seront examinées aujourd'hui lors d'une réunion conjointe EAC-SADC à Dar es Salaam. Première étape dans la mise en œuvre des décisions du sommet du 8 février dernier. En bref, en Guinée-Bissau, les élections présidentielles et législatives fixées au 30 novembre prochain. C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier le président. Le 4 septembre avait pourtant été arrêté par la Cour suprême. L'opposition, elle, estime qu'Oumaro Sissoko Embalo doit quitter le pouvoir dès ce jeudi. Comment mettre fin au délestage d'électricité? La question est toujours d'actualité au Gabon, où les coupures de courant sont récurrentes. Face à ce fléau, les autorités tentent de trouver des solutions. À Libreville, une société turque a été choisie pour produire de l'électricité grâce à 2 navires-usines dans le nord du pays, dans la province du Wolentem. C'est la Guinée équatoriale qui devrait pallier le déficit énergétique. 10 mégawatts vont être importés. Les réseaux électriques des deux pays ont été raccordés samedi. RFI Libreville, Yves-Laurent Goma.
Théodoro Obiangema de la Guinée équatoriale et Brice Clotaire Oligingema du Gabon ont simultanément coupé le ruban symbolique. Ils ont aussi appuyé sur le bouton qui a allumé les lampes du côté gabonais. Dans un premier temps, Bitam, la ville gabonaise située à la frontière entre la Guinée équatoriale et le Cameroun, est la première bénéficiaire de cette interconnexion. 3 mégawatts permettent depuis samedi de mettre fin au délestage dans cette ville. Des travaux sont en cours pour étendre l'électricité de la Guinée équatoriale vers les villes d'Oyem, Mundik et Medouneu, proches de Libreville. Jusqu'à ces jours, ces villes étaient alimentées via des centrales thermiques à gasoil défectueuses et trop coûteuses. Aucun chiffre n'a été communiqué sur le coût de la facture que le Gabon réglera à la Guinée équatoriale pour les 10 mégawatts attendus. Les représentants de la CEMAC, ceux de la CEAC et les autorités gabonaises focalisent plutôt leur communication sur ce modèle réussi de coopération régionale. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
C'est une nomination qui suscite la polémique. Le lieutenant-colonel Urokoura Tchagara Agadazi a été choisi il y a 10 jours comme nouvel ambassadeur du Togo en France. Son nom est cité dans plusieurs rapports d'ONG, dont celui de la Ligue togolaise des droits de l'homme, pour son rôle avec les Bérets rouges, lors notamment de la violente répression des manifestations post-électorales de 2005. Sa récente nomination soulève des critiques, notamment dans la diaspora. Qu'audit Togo, la coalition de la diaspora togolaise, appelle Paris à ne pas l'accréditer. Écoutez Raphaël Badou, le coordinateur de Qu'audit Togo.
Le nom suscite tout de suite l'indignation, suscite un souvenir ou bien rappel ce qui s'est passé. Il n'y a pas que 2005, nous avons également 1991 où le colonel était lieutenant. Donc les gens s'en rappellent très bien. Son nom est cité parce qu'il était à la tête un groupe de militaires Bérets rouges qui ont sévi dans la région de Tchaoudjo à Sokodé. Est-ce qu'on doit encore nommer le colonel dans un pays comme la France, qui est un pays des droits de l'homme? Quelque part, ça suscite un peu des interrogations. Je pense que toutes ces personnes-là, qui sont innocents ou pas, on ne devait plus les mettre en avant de la scène. Certains de nos compatriotes vivent en France avec un statut de demandeur d'asile ou bien de réfugié. Est-ce qu'ils seront libres en étant sur le territoire français avec un représentant de notre tiers pays qui est un des acteurs également de la répression? Alors ça ne peut que susciter des inquiétudes.
Propos recueillis par Christina Okello. Et puis voilà plus d'un siècle qu'elles ont été emmenées loin d'Afrique. 113 statuettes de bronze vont être restituées au Nigeria par les Pays-Bas. Volées en 1897 par les soldats britanniques au peuple Edo dans l'ancien royaume du Bénin, les premiers bronzes devraient arriver avant la fin de l'année à Lagos. Olivier Roger.
En 1897, les troupes coloniales britanniques pillent les palais du peuple Edo dans l'ancien royaume du Bénin, raflant des bronzes anciens fondus entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Les statuettes sont ensuite envoyées en Angleterre. Comment ont-elles fini en Hollande? Réponse avec le consul néerlandais à Lagos, interrogé par la télévision nigériane.
En fait, elles ont été achetées aux enchères. Je crois que lorsque les œuvres pillées arrivaient au Royaume-Uni, une partie finissait dans les musées, une autre était revendue. Le musée de Leiden, à l'époque, un musée ethnographique, on a acheté une série. Et c'est comme cela que ces œuvres sont arrivées aux Pays-Bas.
Ces bronzes, représentant notamment